Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast, disponible à l'adresse safiagourari.fr/guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Si vous avez prévu d'utiliser Instagram dans votre stratégie pour vous faire connaître, pour démontrer votre crédibilité et surtout donner de la visibilité à vos offres, vous êtes au bon endroit et l'épisode du jour va vous plaire. J'ai convié Chloé, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Quincy, qui est consultante en réseaux sociaux et spécialiste d'Instagram, à venir nous partager ses meilleures astuces pour faire de son compte sur cette plateforme une excellente vitrine pour son business et un aimant à clients, si je peux dire. Je connais Chloé depuis à peu près 4 ans maintenant, ça fait très longtemps. On a toutes les deux commencé avec un blog et un contenu assez lifestyle. On s'est spécialisé par la suite. À côté, elle a toujours eu son activité de community manager. Elle est à son compte depuis le mois de mars 2020 à peu près. Elle s'est lancée pendant le confinement. Et alors pour moi, c'est la référence en ce qui concerne Instagram et les réseaux sociaux de manière générale, parce qu'elle est tellement passionnée par ce qu'elle fait qu'elle est au courant de tout, que ça se ressent dans son contenu et qu'il est très éducatif. Très honnêtement, je ne me voyais pas inviter quelqu'un d'autre pour vous parler d'Instagram et vous apporter de la valeur sur le sujet. Dans cet épisode, on va parler des erreurs qu'on a tendance à commettre sur Instagram et qui nous coûtent cher. Ensuite, Chloé nous partage des astuces pour avoir un profil optimisé, pour mettre en place une stratégie de contenu et pour créer de l'engagement et convertir ses abonnés en clients. Croyez-moi, avec tout ce qui est abordé dans cet épisode, vous avez de quoi mettre en place une excellente stratégie sur Instagram pour les semaines et les mois à venir. Je vous laisse tout de suite avec notre échange. Salut Chloé, bienvenue sur Build Yourself.
Merci beaucoup, merci Safia de m'avoir invitée.
Et avec plaisir. Alors, est-ce qu'on peut commencer par parler un peu de toi, parce que t'as fait plein de choses. Alors, on se connaît depuis un petit moment déjà, peut-être presque depuis 4 ans. Bon, c'est pas encore vu en vrai, faudrait qu'on le fasse, hein. Mais on se connaît depuis un moment, alors est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours?
Du coup, moi j'ai fait une licence et un master en communication digitale. J'ai toujours voulu être community manager, et donc du coup c'est ce que j'ai fait à la fin de mon master. Je me suis lancée dans le social media, et donc du coup je suis partie à la recherche des grands groupes. J'ai fait mon expérience là-bas. Sauf que j'ai fait du coup 2 burn-out en entreprise. Et je pense que le deuxième a été la révélation, puisqu'après, quelques mois plus tard, il y a eu le confinement. Et là, j'ai décidé de me lancer enfin à mon compte. Mais cette fois-ci, pas en tant que CM, mais en tant que consultante. Parce que le métier de CM, je le trouvais très limité. Et je voulais vraiment créer pour moi, bosser pour moi, avoir mes propres clients. Et pas juste gérer et manager les comptes des autres. Donc voilà, un peu où j'en suis. Donc du coup, je me suis lancée à mon compte pendant le premier confinement, au mois d'avril. Et grâce à tes conseils d'ailleurs, parce que t'as été la première à m'envoyer un message pour me dire bravo de t'être lancée quand j'avais mon petit message de l'URSSAF. Et j'étais super fière de moi. Et donc du coup, voilà, là je suis assez contente parce que j'ai des résultats qui sont exponentiels depuis que je me suis lancée. Et voilà, je regrette pas. Et c'est aussi grâce à toi parce que ça fait depuis des années que je te suis et que tu me pousses. Donc merci.
Non mais c'est, pour moi c'était juste, enfin il était temps, tu vois, c'était longtemps que tu nous partageais plein de conseils, plein de trucs hyper intéressants et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle attend?
J'avais peur en fait, je me disais personne va vouloir payer pour ça, enfin c'est toujours un peu le truc, au début on partage plein de choses gratuitement parce que bah, ça nous passionne, après on se rend compte, mais on se dit mais non mais il faut que je vende ça, c'est pas possible, enfin faut que j'en fasse quelque chose. Et après bon, je pense que quand t'es en CDI aussi c'est compliqué, enfin surtout dans le domaine du digital, t'as pas vraiment d'heure. Quand on t'appelle à 21h pour te dire bon, il y a une info qui vient de sortir et un machin, il faut que tu publies et tout, c'était un peu chaud et j'avais du mal, j'avais complètement laissé tomber mon audience. D'ailleurs avant c'était pas du tout le positionnement que j'avais, c'était plutôt lifestyle. Et là en fait, j'ai eu un déclic où je me suis dit mais non, c'est ça qui me passionne, c'est le digital. Et donc du coup pendant le premier confinement, je me suis dit bon, j'avais lancé un challenge de création de contenu. Je m'étais dit bon, c'est mon propre challenge et on va voir ce que ça donne. Et en fait, ça a tellement bien cartonné, ça a tellement bien marché, j'ai tellement eu des super résultats pour moi-même que je me suis dit bon, il était temps de faire quelque chose là. Et après j'ai des demandes de clients, j'étais en mode mais je suis pas entrepreneur. Et en fait bah 2 semaines après, j'ai lancé mon statut, j'ai dit bon, il était temps, Chloé, c'est bon. Ça suffit les bêtises, lance-toi parce que ça fait 5 ans que je suis procrastine, il est temps là.
Donc, bon, voilà. Tu vois, comme quoi des fois c'est un petit truc, un petit déclic et puis on saute le pas alors que ça fait 3 ans qu'on cogite quoi.
C'est ça, exactement. Donc je suis trop contente.
Et du coup aujourd'hui t'es consultante et donc tu aides, alors je sais pas si tu t'adresses qu'aux entrepreneurs, mais en tout cas à mettre en place une stratégie de contenu et de communication sur Instagram.
C'est ça, je suis spécialisée sur Instagram, après je peux donner des conseils par exemple pour YouTube ou quoi que ce soit. J'ai des entrepreneurs mais aussi des influenceuses et c'est ça que je suis contente, c'est que du coup je suis contente d'avoir quand même bâti une communauté en amont quand j'avais à peu près 2000 abonnés où il y avait quand même pas mal d'influenceuses que du coup elles me font confiance aujourd'hui. Et c'est aussi des personnes que je veux aider parce que même si leurs problématiques sont différentes, souvent elles veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat à côté. Elles ont souvent des projets à côté et donc j'aime beaucoup ces deux cibles là. Donc voilà. Donc maintenant du coup je suis consultante et j'en fais des stratégies qui soient soit la partie visuelle ou technique pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.
On voit le, enfin moi je regarde tes stories tous les jours et du coup je vois forcément les avant après et je me dis ouais, c'est ce qu'elle fait Chloé. C'est toujours, enfin tu vois, le après il est toujours waouh et on se dit putain, elle a tapé dans le mille quoi.
En fait, ce que les gens se rendent pas compte, c'est que des fois quand on a la tête dans le guidon, on voit pas forcément les évidences. Ou voilà, des fois il y a des filles, ils ont trop d'informations, ou en fait ils veulent des fois faire compliqué en essayant de faire des choses hyper stylé, alors que ça l'est pas du tout, l'information elle est pas claire, et au final moi ce que je veux faire c'est clarifier tout ça, leur aider à avoir un meilleur positionnement, que l'information elle soit plus claire, donc du coup on comprenne mieux, qu'on les identifie. Moi c'est vraiment ma spécialité, c'est ça, c'est que je veux que tout le monde devienne incontournable et identifiable dans son domaine, qu'on reconnaisse à chaque fois que la personne elle poste, on reconnaît son contenu avant même d'avoir vu son nom, tu vois. Et ça c'est hyper important, et je trouve que dans l'entrepreneuriat ça manque beaucoup. Il y a très peu d'entrepreneurs qui ont une vraie identité, tu vois. Parce que pour moi, à partir du moment où tu as une marque personnelle ou un business autre, il faut vraiment avoir une identité de marque qui soit forte. Il n'y a que comme ça que tu vas te démarquer, tu vas marquer les esprits, que les gens ils vont vouloir acheter chez toi. Parce que, en fait, c'est un peu comme Nike, Adidas, Sephora, c'est tu reconnais, tu as envie d'acheter, c'est comme ça. Et moi, je pense que les entrepreneurs, ils ont tendance à se dire oui, mais vu que c'est une marque personnelle, c'est différent. Bah, moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'on doit se vendre un peu à l'américaine. Tu as une marque, tu as un business, donc vends-toi en tant que marque. Parce qu'en plus, après, si tu veux vendre des produits dérivés, etc., ça va te faciliter la vie. Direct, tu auras une identité qui sera forte. Donc voilà, moi, c'est mon conseil principal.
Complètement. T'as toujours été intéressée par tout ce qui est digital ou c'est venu par la suite? Parce que, alors, moi, je recommande à toute personne qui est intéressée par les réseaux sociaux de te suivre parce que t'es au courant de tout. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de regarder les news. Je vais regarder les stories de Chloé et puis je sais ce qui se passe, quelles sont les nouveautés, etc. Donc, je me demandais si c'était venu parce que tu utilisais les réseaux sociaux ou déjà depuis un moment, t'as cet intérêt pour tout ce qui est numérique, quoi.
Toujours. J'ai toujours été passionnée par ça, même à l'époque MSN, Facebook. Moi, j'étais passionnée. J'avais un Skyblog, je pense, comme tout le monde. Et en fait, au début, moi, je me rappelle, je me suis inscrite sur Instagram en 2014 à l'époque. Voilà, il n'y avait personne, il n'y avait pas de story. Enfin, c'était des formats un peu ridicules, des images qui étaient floues. On avait des téléphones qui, franchement, c'était une galère. Et ça me passionnait déjà. En fait, j'y passais déjà des heures et des heures. Et je me disais, mais c'est fascinant de voir à quel point on peut partager des choses et rencontrer des gens, connecter des liens sur Instagram. Et là, moi, depuis... Après, j'ai recréé un compte, du coup, le compte Quincy que j'ai maintenant, en 2016. Et là, je me suis dit, waouh, mais on peut vraiment connecter les gens, en fait. Et c'est là où ça m'a passionnée. Je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire avec les réseaux sociaux. Et après, bon, t'as eu Snapchat qui est arrivé, qui a un peu relancé le truc. On avait un peu boudé Instagram. Je me rappelle, à cette époque-là, 2014-2015, on était plus sur Snap. Et en fait, j'aime trop voir l'évolution des comportements des gens suivant les plateformes, parce qu'en fait, ça répond à un besoin. Avant, on n'avait pas Internet. Après, on n'avait pas les réseaux sociaux. On faisait comment? Et maintenant, après, t'as eu YouTube, t'as eu MySpace, t'as eu YouTube qui l'a remplacé. Enfin bref. Et je trouve ça passionnant de voir que ça change, en fait, notre mode de vie complètement, parce que maintenant, tu vas préférer regarder, par exemple, une vidéo YouTube que la télé. Or, quand on était ados, ça nous serait pas venu à l'idée. Enfin, voilà, on était là, on regardait Canal J, MCM, Top, ce que tu veux, tu vois. Mais on regardait pas YouTube. Et maintenant, tu vas te regarder même des séries, des films, parfois sur YouTube. Enfin, c'est un truc de fou. Et Instagram, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'adore dans ce réseau-là, c'est que bon, ok, Mark Zuckerberg, il a piqué les idées un peu à tout le monde. Il est un peu problématique sur ce point-là. Mais autant, à chaque fois, il arrive à tirer son épingle du jeu et à nous garder sur la plateforme. Et moi, ça, c'est un truc qui me passionne. Et pour répondre à ta question sur les autres plateformes, bah, du coup, j'ai toujours été passionnée de nouvelles technologies. Donc, c'est pour ça, moi, je suis team Apple, je suis team high-tech, etc. J'adore avoir les gadgets utiles, mais j'adore avoir les gadgets. Si c'est new, dès que c'est pas utile, je prends quand même. Voilà. mais tu vois, je trouve que c'est pour ça que j'aime bien partager ça, l'actu avec mes abonnés, parce qu'ils sont pas forcément au courant, ils vont pas forcément avoir la curiosité d'aller chercher, mais après c'est les premiers à me remercier parce que bah ils ont été au courant avant tout le monde d'une nouvelle actu, donc ça j'aime beaucoup et je fais beaucoup de veille, c'est 80% de mon travail parce que j'adore ça. J'abuse un peu des fois parce que je me dis déconnecte-toi, c'est bon, ils peuvent t'attendre Chloé, mais c'est vrai que j'aime bien être sur le qui-vive et j'aime bien être au cœur de l'actu.
Ouais, ça se voit. Mais moi aussi, c'est aussi pour ça, entre autres, que j'apprécie tes stories, parce que je sais que je vais être tenue au courant que c'est des infos utiles, tu vois. C'est pas juste des stories pour raconter sa vie, parler de soi, partager ce qu'on fait, c'est aussi pour informer. Et c'est ça. C'est cool.
Exactement.
Ça, c'est cool. Bon, je t'ai fait venir aujourd'hui pour parler d'Instagram, parce que tout le monde veut être et aime Instagram, mais galère un peu avec le réseau, on va pas se mentir. Donc, je me suis dit qu'on allait te convier pour partager des petites astuces à appliquer sur cette nouvelle année 2021 et faire connaître nos offres, notre activité, gagner en visibilité, développer notre réseau aussi, parce qu'Instagram, ça sert aussi à ça. Et donc, je voulais qu'on commence directement en mettant en avant les erreurs que tu as tendance à voir le plus chez les entrepreneurs.
Alors, comme je te disais, la première erreur que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'identité. Et c'est l'erreur numéro un de mes clientes, c'est-à-dire qu'elles arrivent, elles me disent « Voilà, j'ai mon feed, qu'est-ce que tu peux faire ?» Et moi, je lui dis « Bah, il y a tout à refaire, parce que ça ne va pas. » Donc ça, c'est vraiment un gros souci à régler, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler son identité de marque. J'y reviens tout le temps, mais la charte graphique, etc., c'est hyper important, parce que Instagram, c'est un réseau qui est visuel. Donc ça, c'est la première partie. Si tu n'as pas travaillé ton identité visuelle, tu vas avoir du mal à créer une stratégie de contenu qui sera efficace, qui sera efficiente, et du coup pouvoir te démarquer, etc. Et aussi de faciliter ta création de contenu, parce qu'une fois que tu as tes templates qui sont faits, bah t'as plus qu'à poster. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent faire comme tout le monde. C'est-à-dire que, ah, il y a le format reminder qui est arrivé, je vais faire ça. Ah, il y a le format quote, je vais faire ça. Ah, et en fait, c'est dommage parce que, bah du coup, moi franchement, ça m'arrive des fois de confondre des entrepreneurs. Ouais. Parce qu'ils ont une charte graphique similaire, parce qu'ils ont une typo similaire, parce qu'ils font tous les mêmes formats, et je trouve ça hyper dommage. Donc ça, c'est la deuxième erreur que je vois aussi beaucoup. La troisième erreur, ça serait de ne pas être régulier. Et ça, on va me dire, oui, mais c'est pas facile. Et je sais à quel point c'est pas facile. Et c'est pour ça que ceux qui se démarquent, bah, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils travaillent derrière. Je pense qu'avec une bonne organisation, on peut y arriver. Mais moi, je vais pas mettre la pression en disant, faut que t'aies 30... contenu d'avance, faut que t'aies 30 posts d'avance, faut que tu saches exactement ce que tu vas poster en janvier. Non, pas du tout. Par contre, ça s'organise. Et à partir du moment où tu commences à poster régulièrement, tu vas voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce que tu apprécies, ce que tu n'apprécies pas. Et c'est là, en fait, qu'il va se dégager quelque chose. Mais si tu postes une fois toutes les 3 semaines et que tu dis « Ah, j'ai pas de résultat, ça me saoule, je repars », bah, tu peux pas, en fait. Déjà, tu peux pas bâtir une stratégie efficace, tu peux pas bâtir une audience qualifiée. Enfin, c'est compliqué. Donc, les entrepreneurs, ce qu'ils ont, c'est le problème, c'est qu'ils se démotivent très vite parce qu'ils ont pas envie d'avoir la discipline sur la durée. Or que, toi-même, tu l'as testé, et moi, je suis super contente que tu l'aies testé, de publier quasiment tous les jours pendant un mois, et t'as vu la différence. La différence, ouais. Elle est clairement là. Les gens, ils ont besoin de se rappeler toi et de te voir, en fait. Et plus ils vont te voir, plus ils vont vouloir te faire confiance. Plus ils te font confiance, qu'est-ce qui se passe? Plus ils achètent. C'est mathématique, en fait. Donc ça, je dis pas qu'il faut être là tous les jours, H24, story, pimpé, maquillé, les reels, les IGTV, etc. Et les lives tous les jours, c'est pas possible. On dit, voilà, c'est pas possible. Mais par contre, faut avoir un minimum de régularité parce que ça, c'est vraiment l'erreur, mais numéro un. En fait, il y a des gens qui ont un contenu qui est super, mais ils disparaissent pendant 2 mois, ils reviennent, ils repartent. Je l'ai fait à l'époque. Bon, j'avais pas un compte pro, donc c'était pas grave, mais ça fonctionne pas en fait. Les gens, ils ont pas envie, parce qu'ils ont envie de pouvoir compter sur toi. Et le peu de fois où j'ai oublié, par exemple, de faire la daily motivation, tu vois, le matin,
ouais.
La daily dose of motivation, il y a des gens qui m'ont dit « Coucou, tu vas bien, t'as le Covid, t'es malade ». Non, en fait, je me suis juste pas réveillée ce matin, j'avais envie de dormir et j'ai pas fait ma daily dose. Et donc, du coup, bah, allez, coucou, tu vas bien, t'es sûr que ça va? Donc, je me suis dit, ok, donc en fait, les gens, c'est vraiment une habitude, c'est un peu comme le journal ou quoi que ce soit, ils ont besoin de te voir en fait et de suivre tes posts constamment. Et depuis que je fais ça, depuis que je suis hyper constante, je vois vraiment une évolution incroyable sur mon compte. Donc, voilà.
C'était déterminant pour toi, ça? Parce que concrètement, toi, ton business. Bon, jusqu'à quelques semaines, il tournait qu'avec Instagram. C'est-à-dire que tu n'avais pas de site, tu n'avais pas de podcast, tu n'avais pas de chaîne YouTube. Genre la meuf, elle a son business sur Insta. Bien risqué, mais bon, je ne rentre pas là-dedans.
Complètement, mais je sais.
Mais du coup, toi, juste avec ça, ça t'a permis d'avoir des clients finalement.
Ouais, déjà juste avec ça. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai même pas eu à me vendre en fait jusqu'au mois de septembre. Je ne me vendais même pas en fait. Je disais voilà, je faisais 2-3 stories, je disais voilà, commande en cours. J'avais même pas besoin forcément de montrer les résultats, j'avais des demandes constamment. Et là, depuis que j'ai un site, je t'explique pas comment ça me change la vie. Hein. Moi, j'étais vraiment en mode DIY. Je sais pas comment je faisais sans site, je sais pas. Mais si tu veux, moi j'ai rien fait dans l'ordre. Donc si tu veux, j'ai beau écouter tous tes podcasts, j'ai rien fait dans l'ordre parce que j'avais tellement un syndrome de l'imposteur, de la peur de me lancer, que qu'est-ce que j'avais fait? J'avais un nom de domaine, mais j'avais pas de site. J'avais un freebie, mais qui avait rien à voir avec mon business. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais il se trouve que ce freebie-là, bah, il m'a attiré plus de 900 personnes sur ma mailing list. Qui fait que quand j'ai ouvert mon site, bah, j'avais déjà 900 personnes, tu vois. Et ça, c'était pas négligeable. Et en fait, je me suis dit, Chloé, t'as rien fait dans l'ordre, mais tout ce que t'as fait avant, ça porte ses fruits. Et au final, bah, je suis super contente parce que, tu vois, ma stratégie de contenu, elle m'a aidée à convertir ces personnes-là sur ma newsletter. Elle m'a aidée aussi à ce que les personnes arrivent sur mon site et comment. Donc en fait, ça a pris du temps, mais maintenant, je ramasse un petit peu les fruits de mon travail et je me dis, maintenant que j'ai un site, c'est bon, je peux m'éclater, je peux faire des choses. C'est bon, je peux faire des choses, j'ai une newsletter, je peux m'exprimer. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était compliqué. Moi, j'ai eu la chance que les gens me connaissaient d'avant et connaissaient mon parcours, avaient vu mes coulisses en tant que CM, comme quoi j'étais quand même experte. Il y en a qui me suivent aussi depuis mon master, donc ils savent, ils ont vu l'évolution. Donc, ils pouvaient me faire confiance sur un site internet. Maintenant, je pense que les gens qui ne me connaissent pas, ils vont se dire « Attends, elle n'a pas de site. » Je pense que ça refroidissait un peu. Et c'est le cas de beaucoup de coachs, malheureusement, qui n'ont pas de site et par contre, pas d'expérience. Là, pour le coup, pour se vendre et pour donner confiance, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que moi, j'avais la chance d'avoir cette base d'abonnés qui me suivaient, qui me faisaient confiance, qui savaient que j'étais pas une mytho, que j'étais pas une fausse coach Instagram comme il y en a dizaines. Voilà, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, ils savent que je connais bien mon sujet et ça, c'est vrai que ça a pesé dans la balance aussi, je te cache pas.
Ouais, et après, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est juste qu'il faut faire quelque chose en fait. Ok, t'as pas fait les choses dans l'ordre, mais t'as fait quelque chose quand même. Donc au final, voilà, la leçon que je trouve à tirer de tout ça, c'est ok, t'as peur, tu sais pas comment faire les choses, mais tu les fais quand même.
Et
ça t'apporte des résultats, quoi.
C'est ça, exactement. Au début, c'était n'importe quoi. Enfin, voilà, moi, j'ai tout appris sur le tas parce que je te dis, je repoussais depuis tant d'années que j'ai dû tout apprendre rapidement. Et là, maintenant que j'ai un site, je continue d'apprendre. Je me refamiliarise avec WordPress. Ça fait depuis mon blog que j'avais plus WordPress. Et je me dis, mais comment j'ai fait tout ce temps sans site internet, en fait? Enfin, c'est juste génial. Et du coup, ça me donne envie de me professionnaliser, de créer des offres. Enfin, voilà, c'est. Mais je pense que tout se fait par étapes et les gens qui veulent tout parfait. Tout d'un coup, moi c'était mon cas là-bas, je voulais le site parfait, je voulais tout parfait, mais au final j'avais aucune stratégie, je savais même pas ce que je faisais, je comprenais rien et je me dis, au final, bah, comme tu le dis souvent, l'entrepreneuriat c'est un chemin en fait, il n'y a pas de finalité, tout n'est pas censé être parfait dès le départ, tu dois tester des choses et Instagram en fait partie. Et je trouve qu'Instagram, à partir du moment où tu décides de t'investir dessus, tu auras forcément des résultats.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, enfin, c'est un plaisir, tu vois, d'aller sur cette application. Elle est devenue tellement diversifiée que tu peux passer.
Mais c'est ça. Et puis,
on va pas révéler le nombre d'heures qu'on passe toutes les deux sur Instagram parce qu'on s'était déjà dit en privé c'était indécent, mais c'est vrai qu'on aime
surtout
bien l'application.
Surtout le premier confinement, c'était horrible. Premier confinement, moi, oh là là, on savait pas quand ça allait s'arrêter. Du coup, on était complètement. Enfin, moi, j'étais premier confinement, je me rappelle, j'avais envie ma capture, j'avais honte, je m'étais dit mais là, c'est pas possible, sors chez toi, fais quelque chose. Ouais. Là maintenant j'essaye un peu de. Après il y a TikTok aussi moi qui m'inspire beaucoup TikTok.
Ouais, hein.
Fou là là TikTok c'est un contenu qui est tellement. S'ils ont réussi à faire avec l'application TikTok qui est très forte, c'est que c'est hyper immersif. L'application est hyper immersive.
C'est vrai.
Je sais pas toi mais moi j'ai tellement hacké l'algorithme pour avoir du contenu qui me plaît que je peux y passer des heures dessus, quoi. J'ai que des contenus d'entrepreneurs, small business, etc., des CEO, des CM, etc., des social media stratégistes. Et moi, ça me passionne tellement, mais je peux en regarder 150, même si elles disent toutes la même chose, au final. Hein. De manière différente, ouais. Tu vois. Mais je suis là, je me dis, ah, mais ça, c'est une super idée, mais elles sont tellement créatives, les Américaines et tout. Et c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on a du mal avec ça. Mais eux, ils sont un peu dans le too much. Mais ça passe.
Oui.
Ouais. Ça passe. Jasmine Star, elle va danser pendant 10 minutes pour te dire social media, Facebook, voilà. Et ça va, ouais. Tu vois. Et tu vas acheter. Pourtant, en France, c'est vachement moins. Enfin, c'est différent. Donc, je trouve que là, Reels, ça arrive sur Reels, mais c'est différent. Je trouve que le contenu TikTok Reels, il est différent, mais on peut tirer son épingle du jeu aussi.
Ouais, clairement. Bah, j'aime bien Reels, mais c'est vrai que je passe plus de temps sur TikTok. Alors moi, pour le coup, mon TikTok, c'est pas trop business. C'est plus des gens qui tombent parce que ça me fait pleurer. Donc, dès que j'ouvre l'application, je sais que je vais rigoler parce que TikTok me donne ce que je veux, tu vois. Donc voilà, les gens qui tombent.
C'est un peu sadique quand même. Trucs, ouais. J'avoue. J'ai passé une journée de merde. Bon, je vais regarder TikTok, ça va me faire du bien. C'est un peu ça.
C'est un peu l'idée, ouais. Mais bon, c'est bien aussi pour ça. Tu vois, chaque application a sa mission, on va dire.
Complètement.
Sais,
mais ce qui est bien sur TikTok, c'est qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde, en fait. C'est peu importe ce que tu cherches, tu as. C'est un truc de dingue. Après, sur Reels, c'est différent, mais je trouve que les Français ont encore du mal. C'est pour ça que moi, j'ai lancé mon challenge pour que les gens se bougent à faire des Reels, parce que c'est maintenant qu'il faut prendre le train en route, quoi.
Complètement, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais quoi, on va commencer un peu avec les bases. Et je voulais avoir tes conseils pour avoir un profil Instagram qui est optimisé, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent tout juste, qui m'écoutent, et je sais qu'elles ont besoin d'être guidées pour avoir une belle vitrine, on va dire, sur Instagram.
Alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas se dire que notre profil, il est que pour nous, en fait. Parce que nous, on comprend, on sait ce qu'on fait. Pour nous, c'est clair, mais ça n'est pas pour tout le monde. Donc, du coup, bah, une photo de profil, en fait, qui soit cohérente. Si y a 10 000 informations derrière, on ne voit pas, t'es de dos, t'es habillé d'une couleur qui n'a rien à voir avec ta charte graphique, déjà, en fait, ça va... C'est la base, en fait. Donc, déjà, si t'as une photo avec ta cousine en photo de profil, change-la. Si t'as ton logo qui est flou, pixelisé, c'est pas possible. Ça, c'est des choses qui sont... Mais franchement, ça paraît logique, hein, mais beaucoup de personnes font ces erreurs-là, donc je le répète, la photo de profil, de base, elle doit déjà donner envie, elle doit donner confiance, elle doit être pro, en fait. Je dis pas qu'il faut avoir un costard cravate comme sur LinkedIn, mais il faut que ce soit pro, un fond uni, et quelque chose qui soit cohérent, qui soit parlant, qu'on puisse te reconnaître, que ce soit toi ou ton logo. Si t'as une marque personnelle, c'est mieux de mettre ta photo. Une biographie qui soit claire. Et quand je dis claire, on doit comprendre ce que tu fais. Si tu nous dis... des fois, ils utilisent des anglicismes qui n'ont pas lieu d'être, on va pas comprendre, ou vous utilisez des termes que vous seuls connaissez, c'est pas possible, en fait. Moi, des fois, souvent, les coachs holistiques, etc., ils utilisent des mots, je sais pas, sororité, féminin, sacré, moi, je comprends pas. Même si ça m'intéresse, je comprends pas. Et c'est ce que j'ai dit à beaucoup de femmes qui sont dans ce domaine-là, dans le domaine du bien-être, etc. J'ai dit, les filles, faites simple. Et attirez-nous vers vous, et après, on familiarisera avec votre univers. Mais au début, on doit comprendre ce que vous faites. Donc, ça doit être une bio qui est claire, avec des appels à l'action, des verbes d'appel à l'action qui seront simples, qui seront clairs, et surtout un appel à l'action vers ton site, vers ton freebie, vers tes goodies, vers ce que tu veux, vers ta promo du moment, mais sans appel à l'action. J'ai pas envie de cliquer sur ton site, en fait. Sauf si t'as vraiment un feed génial, un contenu génial, des stories géniales, là peut-être que je vais aller cliquer, mais si tu m'invites pas à aller cliquer, à me dire ce que je vais y trouver, je vais pas cliquer. Donc ça, pour moi, c'est la base. Et après, on en vient à ma partie problématique, voilà. le feed, comment ça se passe, les formats, en fait. Voilà, moi, il y a trop de mauvais formats que je vois encore. On peut pas mettre du format 16/9, du format YouTube sur Instagram. Je me bats contre ça et les gens comprennent pas. Mais maintenant, on a des iPhones qui font la taille d'un iPad et si tu... Enfin, c'est pas possible, en fait. Sur Instagram, on peut pas retourner l'écran. Donc, c'est pas du tout cohérent. Pareil pour les IGTV, on va pas regarder une vidéo de 9 minutes qui sera pas au bon format, enfin... Sauf si, encore une fois, tu adores la personne et tu la suis sur ses autres plateformes, YouTube, etc., tu vas peut-être accepter que l'expérience utilisateur soit amoindrie, mais ça, je suis pas d'accord. Donc, voilà, pour moi, un bon profil, c'est quoi? C'est une bonne bio, une bonne photo de profil, un feed qui est cohérent et des formats qui sont cohérents. Déjà, ça, t'as fait 80% du travail. Après, ça va être la partie esthétique, visuelle et puis la partie stratégique. Mais déjà, ça, un profil optimal, c'est un profil qui répond à tous ces critères-là.
Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est vrai que c'est juste le début, quoi. Avec ça, on est déjà pas mal, on est bien lancé.
C'est ça.
Ensuite, je voulais aussi avoir tes conseils pour mettre en place une bonne stratégie de contenu sur Instagram. Et d'ailleurs, tu as parlé d'IGTV, donc j'ai une question qui m'est venue en tête. Est-ce que selon toi, il y a une durée idéale pour les IGTV?
Pour moi, en fait, maintenant, les Reels ont tellement remplacé... On s'est tellement habitué au format court que même perso, j'ai du mal à consommer du format long. Sauf si c'est un replay de live qui me passionne. Mais je trouve que maintenant, les gens n'ont plus vraiment envie de consommer du contenu long. Donc je dirais grand max de 6 à 11 minutes. Si ton sujet est super intéressant, 11 minutes. Si ton sujet il peut se terminer en 6 minutes, fais-le en 6 minutes. Après, il y en a qui veulent faire des IGTV super longs. Je déconseille. Je préfère que vous coupiez ça, que vous en fassiez un reel, que vous en fassiez une partie en story, que vous fassiez une partie en live, une partie en IGTV. Mais des IGTV trop longs, personne ne les regarde en entier, quasiment. Parce qu'on décroche, parce qu'on a des pop-up, on a des notifications, on n'arrive pas à rester super longtemps sur un contenu aussi long, surtout sur Instagram. Donc voilà, les IGTV, je dirais. Alors, c'est mon avis, hein, mais je les boude un peu parce qu'en ce moment, Insta, il met en avant les Reels. Ouais. Donc pourquoi aller s'embêter à faire du contenu lent qui va être chiant à monter, qui va falloir. Voilà. Fais des Reels en fait. Insta les met en avant. Insta te pousse et te booste à les faire. Donc pour l'instant, je dis pas que c'est interdit de faire des IGTV, mais mise tout sur les Reels. Voilà, moi c'est vraiment mon conseil, c'est ça.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est tellement un tremplin de visibilité en ce moment qu'il faut pas louper le coche si on a envie, en tout cas, de surfer sur tout ça.
C'est ça. Et puis, moi, perso, j'ai mis un peu de temps à me lancer dans les Reels parce que je voulais vraiment analyser la chose. Moi, je suis quelqu'un, j'analyse tout. Et je veux absolument être sûre de savoir pourquoi je fais les choses. Et je voulais voir quels étaient les trends, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, pourquoi ça fonctionnait pas. Et donc, du coup, là, maintenant que je m'applique ma propre stratégie en même, je me dis, OK, je vois les résultats parce que grâce à mon analyse que j'ai fait en amont, il s'agit pas de faire des trucs de ouf, d'être une pro d'After Effects, etc. Il s'agit juste de faire les choses de manière cohérente. Et c'est ça que les gens ont du mal, et surtout les entrepreneurs, ils se disent oh, « faut que je fasse un nouveau truc à la mode, faut que je fasse comme lui, faut que je fasse comme elle, parce qu'elle, elle marche. » Mais c'est pas du tout ça, il est pas du tout question de ça, en fait. Et les gens, une fois qu'ils auront compris ça, là, ils pourront avancer. Mais si tu fais un truc qui t'éclate, déjà, ça va se ressentir. Tes abonnés vont le ressentir, tes clients, ils vont le ressentir. Enfin, t'es quand même au cœur du truc de base. Si tu mets ouais. l'humain au cœur, tu veux être dans l'échange avec tes abonnés, mais si toi-même tu kiffes pas ce que tu fais ou tu le fais parce qu'il faut le faire, moi j'en vois plein des influenceuses ou des entrepreneuses qui font ça, qui font parce que ça a marché, mais le problème c'est que t'es juste une énième copie. Moi ce que je retiens c'est la personne qui a cartonné au début, c'est pas forcément toi, et c'est ça qui est dommage. Donc après on a le droit de s'inspirer, y a aucun souci, je suis la première à faire de la veille constamment et à noter les bonnes idées, mais il faut aussi trouver sa patte, et on trouve sa patte en testant, et les gens ont peur de tester, ils ont peur que ce soit pas parfait, ils disent non mais moi mon premier reel doit être parfait, mais il sera pas parfait ton premier reel, on va tous pointer des trucs du doigt et c'est pas grave, on commence par les bases et après tu passes des étapes, mais si déjà t'arrives pas à afficher le texte sur Reels, commence pas à me dire que tu veux faire des transitions de malade où tu vas tourner dans tous les sens, enfin tu vois, et je trouve que les gens ils ont du mal à prendre les choses dans l'ordre, c'est pour ça qu'un profil optimisé c'est aussi un profil qui prend les choses par le début. Il y en a qui ouvrent une page Instagram, ils se présentent même pas, ils balancent leur truc, nouvelle promotion, nouveau machin, mais on ne sait pas qui tu es. Et en fait, ils font rien dans l'ordre. Et quand je te dis rien dans l'ordre, alors moi, pour le coup, Instagram, c'est le seul truc où je fais choses dans l'ordre, hein, vraiment. Et pour le coup, Insta, je suis un peu catégorique là-dessus, fais les choses dans l'ordre. On te connaît pas, présente-toi. Tu as une marque personnelle ou tu as un produit qui oblige à ce qu'on te voit, montre-toi. Arrête de te cacher derrière tes contenus. Il y a plein de choses comme ça, en fait, qui paraissent logiques, mais quand on est dedans, on se rend pas forcément compte. Et c'est pour ça que moi, mes clients, je les accompagne vachement sur cette partie-là, parce que des fois, c'est des évidences. Et en coaching, ils me disent mais t'as raison, en fait. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Je dis bah ouais, parce que là, avec mes conseils, tu vas voir que tu vas faire des ventes. Et deux jours après, trois semaines après, ouais, t'avais raison, merci, de nouvelles clientes. Je dis bah voilà. Mais en fait, c'est pas magique. Mais il s'agit juste que ce soit une bonne stratégie, tout simplement.
Mais en général, ouais, c'est vrai que c'est dur de prendre toutes les informations et de les mettre dans l'ordre et d'en faire une petite stratégie, quoi. C'est la partie la plus difficile.
C'est pour ça
qu'on va vers des gens et on achète des formations, on prend des coachings parce qu'on a besoin que la personne le fasse pour nous et que ça aille plus vite, quoi.
C'est ça. Mais je pense que la base, c'est quand même d'identifier ses piliers de contenu. Une fois que t'as tes piliers de contenu, tu sais où tu vas. Et très peu de gens, pareil, ils disent. Moi, j'ai une cliente récemment, elle m'a dit bon, bah, pour l'instant, je sais pas, je fais et je vois ce qui ça marche ou pas, mais des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Ah! Bah, du coup, là, pour avancer, ça va être compliqué. Là, cette technique-là, je sais pas où ça. T'espères arriver avec ça, mais ça va être compliqué. Donc, voilà. Une fois que t'as identifié tes piliers de contenu, tu peux avancer. Tu peux savoir que lundi, ça sera développement personnel, que mercredi, ça sera, je sais pas, sport, je sais pas dans quel domaine tu es. Et que, par exemple, samedi, ça sera nutrition, si t'es dans le domaine du sport. Enfin, là, je vais donner un exemple de jour complètement au hasard. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas du tout obligé. Enfin, comment dire? Les gens veulent tout faire, ils veulent être partout. Ils disent bon, il faut peut-être que je fasse un peu ça. Non, si ton domaine il se cantonne à deux piliers de contenu, reste sur ces deux piliers de contenu. Par contre, fais-les de manière excellente. Concentre-toi là-dessus, deviens expert dans ton domaine. Et je trouve que toi, tu l'as très bien fait avec le podcast. En vrai, t'as switché complètement.
Ouais.
Même depuis les années où je te suivais dans le blogging et tout. Et en fait, maintenant, je te vois dans les évolutions et je me dis, mais c'est hyper cohérent, en fait. En soi, ça choque. Enfin, tu vois, ça choque pas. C'est pas du tout. Ça sort pas de nulle part, au final. C'est vraiment un truc que t'as fait, de manière progressive. Et donc, du coup, maintenant, je trouve que c'est hyper cohérent ce que t'as fait. Et bravo, parce que ton positionnement, maintenant, il est hyper clair en soi. Et tu t'es spécialisé là-dedans et t'es expert dans ton domaine. Et moi, tu vois, tu me dis podcast. Ça fait des mois que je suis tes podcasts, que je t'écoute, tes conseils, tes masterclass. Je sais que je vais finir par lancer un podcast. Je sais pas quand, mais je sais parce que tu m'as vraiment donné envie de m'y intéresser. Parce qu'en France, c'est quand même assez.
Ouais, c'est pas assez encore hyper développé, ouais.
Voilà. Et du coup, tu vois, je trouve que c'était un très bon exemple dans le sens où quand tu clarifies ton positionnement, tu simplifies les choses au final parce que t'as simplifié vachement le truc. Tu vas à l'essentiel et maintenant on sait que si on veut des conseils c'est chez toi quoi. Donc ça c'est bête, mais plus on fait simple, plus ça marche, j'ai l'impression. Plus on propose des offres qui sont ciblées, plus ça fonctionne. Et ça t'es un super bon exemple.
Et pour le coup, c'est vrai que ça faisait flipper hein. Quand j'ai décidé de faire ce petit revirement, je me suis posé 1000 questions, je me suis dit mais là je suis en train de foncer dans le mur. Ce que je fais c'est n'importe quoi et tout. Et aujourd'hui, je me dis, c'était la bonne décision, tu vois, parce que je le vois dans l'image que j'ai, dans mon positionnement, dans mes offres, dans mon chiffre d'affaires aussi. En fait, ça s'est répercuté un peu sur tout et je me dis, ok, c'était flippant, tu l'as fait quand même parce que t'as suivi ce que t'avais envie de faire et ton intuition. Puis au final, c'était la bonne marche à suivre.
Bah franchement, c'est top parce que même en plus maintenant, il y a de plus en plus des coachs business, entrepreneurs, etc. Pareil, ils se fondent un petit peu dans la masse. Toi, tu t'es toujours démarqué avec ce côté blogging, etc. Avant, c'était Pinterest et compagnie. Et là, t'as carrément pris un nouveau cap sur un autre format, mais qui au final reste dans tout ce qui est communication digitale et tout, et, ouais. Ça cartonne. Et en vrai, ça cartonne parce que tu continues de délivrer de l'informationnel, de l'inspirationnel, mais en soi, juste sur un autre médium en fait. Et c'est super, smart. Donc moi, je valide 100%.
Merci, je suis validée par toi. C'est bon. Petite fierté personnelle. Alors résumer un peu tout ce qui est stratégie de contenu, toi tu conseilles dans un premier temps d'avoir 2 à 3 piliers, on va dire, admettons que je publie 3 fois dans la semaine, tu me conseilles d'avoir une thématique pour le lundi, une pour le mercredi, une pour le vendredi.
Alors,
par exemple.
Pas du tout, pas forcément, ça peut être une thématique par mois, suivant ton offre, suivant l'actualité aussi, parce qu'en même temps, là on doit aussi s'adapter à tout ce qui se passe, la pandémie, etc. Donc tu vas peut-être pas, je reviens sur l'exemple du coach sportif, tu vas peut-être pas lancer un programme d'entraînement à la salle, si on est en confinement, Donc il y a des choses comme ça à prendre en compte. Je pense qu'il faut prendre en compte, comme tu le dis souvent, la saisonnalité, parce que ça c'est super important, surtout sur les réseaux sociaux, c'est un truc de dingue. On a tendance à croire que c'est que en boutique, que tu vas avoir les décos de Noël, Halloween et compagnie, mais c'est pareil en ligne. On a vraiment besoin d'avoir cette saisonnalité pour suivre les cycles et pour s'attacher aussi à une marque, la voir évoluer, etc. Avoir des offres qui vont nous rattraper quand on s'éloigne un petit peu ou quand ça fait longtemps qu'on n'a pas dépensé, par exemple, etc. Pour revenir nous réchauffer un petit peu. Réchauffer l'audience, et ça moi je trouve ça super important. Et du coup j'ai oublié ta question qui était, parce que
en gros, comment un peu construire sa stratégie de contenu? Tu conseilles d'avoir du contenu éducationnel, inspirationnel, et de répartir on va dire de manière assez
après équilibrée. Tout dépend de ton domaine, l'équilibre c'est à toi de le trouver, mais je pense que il faut que tu fasses le bon, il y a un bon ratio entre tout ce qui va être argument de vente, convaincre, etc., produit pur, social proof, etc., avis client et compagnie, avant, après. Ça va être toute la partie un peu business. Je pense, moi, je recommande souvent ça à 80% business, 20% personal brand, lifestyle, perso. Ouais. Mais tout dépend de ton domaine, en fait, parce que si, par exemple, je sais pas moi, t'es coach en self-love, tu vas peut-être raconter vachement ta vie personnelle, raconter tes complexes, etc. Donc, du coup, ça va être hyper tourné sur toi, sur ton ressenti. Mais par exemple, alors que si tu vas être coach business, ça sera peut-être plus tourné sur le business, sur des choses beaucoup plus pratiques, beaucoup plus pro. Donc, pour moi, il faut identifier au moins 2 à 4 piliers et s'y tenir. Et une fois que tu as ça, tu crées tes templates. Tu crées tes templates pour chaque catégorie, pour chaque chose. Tu sais faire quelque chose de cohérent, tu prévisualises ton feed, tu regardes ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Tu lances tes posts, tu postes et tu vois. Et tu vois les posts qui te rapportent aussi le plus de résultats. Que ce soit en termes d'engagement, mais que ce soit aussi en termes de clics sur ton site, et du coup de vente, parce que des fois tu vas avoir des posts qui vont cartonner. Moi mon meilleur post de l'année jusqu'ici, c'est quand même un post où je parle de mon célibat, de mon ancien célibat, de ma vie de célibataire, de femme forte qui souffre. C'est mon post qui a explosé, pourtant ça n'a rien à voir avec mon business, mais vraiment tu vois, je dis pas que c'est un post qui m'a fait vendre, par contre c'est un post qui m'a rapproché de mon audience. Les gens ils se sont tellement identifiés à ce que je décrivais que ce post il a je crois qu'il a dépassé les 1000 likes, un truc de fou. or que j'ai jamais ça sur mon compte, tu vois. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire le bon ratio. Je vais pas raconter ma vie sentimentale tous les jours. Je le fais jamais, d'ailleurs. C'était la première fois que je le fais. Peut-être que je le ferai dans 6 mois, je sais pas. Mais il faut vraiment trouver le bon ratio entre se raconter son histoire, comme dirait Limbola, la reine du storytelling. Voilà, raconter son histoire, bosser sur son storytelling, raconter son parcours, ses échecs, etc. Ça, c'est super important. Pour moi, c'est un des piliers qui doit être... Pour chaque entrepreneur, il doit être là, en fait. Pour chaque marque personnelle, en tout cas, il doit être là. Et tout le reste, après, ça va être du business. Mais toi, comme tu le fais très bien, des fois, tu vas nous dire les bons points, les avantages d'un podcast, etc. Mais ce ne sera pas forcément de la vente. Ce sera vraiment de l'éducationnel. Et ça va petit à petit nous donner confiance et nous dire « Ah, si je lançais un podcast ?» Moi, franchement, il y a encore 6 mois, podcast, j'en écoutais, mais c'était pas transcendant. Et maintenant que je t'écoute, que je te suis, que je découvre aussi d'autres entrepreneurs grâce à tes interviews... Je me dis, mais c'est génial, mais elle a trop raison. Mais attends, elle a un podcast alors qu'elle est dans ce domaine-là, c'est hyper particulier, c'est hyper niché. Moi, j'entends ça, je me dis, mais génial, il y a des podcasts sur tout et n'importe quoi. Maintenant, tu peux fabriquer ton Nutella maison, tu vas avoir un podcast. Non, mais c'est vrai, tu peux faire des podcasts sur tout et n'importe quoi. Et je trouve ça juste génial parce qu'on a tendance à mettre en avant la vidéo. Bon, moi, je suis pro vidéo, hein, mais comme tu le dis si bien, le podcast aussi. Ne pas avoir à se filmer, pouvoir faire ça en pyjama et tout, moi ça me fait rêver, donc je pense que je finirai par y aller.
Non, pour le coup, c'est vrai que ce côté-là, c'est un très bel avantage. Mais je voulais te poser aussi des questions par rapport au format finalement. Est-ce que selon toi, d'une manière assez générale, est-ce qu'il y a des formats qui fonctionnent le mieux, type les carousels ou les infographies ou ce genre de choses ?
Alors les quotes, de manière générale, les citations, ça cartonne. Et en fait, j'ai constaté, de par mes analyses, tout ce que j'avance, ça c'est suivant mes analyses. Hein. Je travaille pas pour Instagram, tout le monde me demande comment l'algorithme fonctionne et tout, je n'en sais rien. Et moi, ce que je vais dire, c'est quoi ? C'est que j'ai constaté, surtout la fin 2020, que le contenu qui se lit, que ce soit des vidéos sans musique, etc., ça cartonne. Et les quotes, en fait, il y a plusieurs études qui ont été démontrées que quand tu partages une citation inspirante, ça te donne aussi une bonne image vis-à-vis de ton audience. C'est-à-dire que, par exemple, si je repartage une de tes citations inspirantes, que moi, je la partage en story, ça va faire quoi ? Ça va me donner le rôle de la personne qui inspire ses abonnés grâce à ta citation. Et en fait, ça, c'est un truc qui fonctionne super bien. Donc, du coup, les citations, je recommande. Les carousels, mais alors les carousels, encore une fois, oui, mais ça dépend. Pas les carousels où il y a 15 slides où on n'y comprend rien. Pas de texte illisible. Le bon format. Moi, c'est 4/5e. C'est pas carré. Le format carré, je suis contre. Voilà, c'est dit. Le format carré, je suis contre. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a des écrans maintenant qui sont 2 fois plus grands qu'avant. On n'a plus des iPhone 4. On a des iPhone 12 et des iPhone 20. Voilà. Et on a un grand écran. Maintenant, on veut une expérience utilisateur qui soit au top. On veut s'arrêter sur un contenu. On veut pouvoir vraiment... stopper et prendre le temps de lire. Et pour moi, c'est si trop petit, on n'est pas c'est pas immersif comme ça devrait l'être. Donc ça, pour moi, c'est ça, c'est les citations toujours au format, même les citations toujours au format 4/5e, les carousels, oui, mais attention au texte, attention que ce soit lisible, la taille, pas trop d'informations, et les infographies je recommande aussi, mais pareil, il y a une erreur que je vois beaucoup, et ça c'est vraiment un truc qui me déprime, c'est que tout le monde utilise les mêmes templates Canva.
Ah là là, m'en parle pas.
Et en fait, ça, je peux plus, quoi. Je peux plus voir les mêmes infographies Canva sur la version gratuite, en plus. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut prendre, que tout le monde peut avoir. Ils modifient, mais ils prennent même pas la peine de modifier la couleur, la typo, je sais pas, quelque chose. Ils personnalisent rien, en fait. Ils te publient ça tel quel. Alors oui, Canva, attention, moi, je suis pro Canva. C'est un super outil pour te faciliter la vie si t'es nul en graphie, si t'es nul... super, génial, mais par contre, fais l'effort de le personnaliser, fais l'effort de le mettre à ta sauce, fais l'effort d'y importer ta charte graphique, fais l'effort. Pour moi, ça, c'est un gros souci, c'est que c'est bien de faire des carousels, c'est bien de faire des citations, mais si vous avez tous les mêmes, encore une fois, ça n'aura aucune utilité, aucun impact. Et ça, les gens ont du mal à comprendre, ils disent « Oui, mais c'est Canva, c'est super joli, ça va marcher. » Bah non, parce qu'il y en a déjà 150 qui ont fait la même chose. Moi, j'en ai déjà vu 10 avant toi, j'ai pas envie de laquer le tien. Non. Même si tu veux, le fond est super, la forme, moi, elle m'intéresse pas. Et c'est ça qu'en fait, que je veux faire avec mes clients, c'est vraiment leur dire, il s'agit pas de faire des trucs de malade sur Photoshop et tout. Moi, je leur livre des templates Canva, clés en main, mais qui sont cohérents, qui sont uniques. Il y en a pas 12 avant eux. C'est aux couleurs de ta charte graphique, ça te ressemble, c'est simple, c'est clair, c'est efficace, t'as plus qu'à l'utiliser toi pour ton business. Par contre, ne va pas me recopier les autres. Maintenant que t'as les tiens, fais avec les tiens. Et ils voient trop la différence. Et les abonnés le voient aussi. Parce qu'à partir du moment où t'as un contenu qui te démarque, bah, pour moi, t'as limite. Franchement, t'as quasiment réussi parce que t'as plus qu'à avoir ta stratégie en amont de savoir quand poster quoi, qu'est-ce que tu vas raconter dans tes posts. Mais quand t'as la base, Donc la création de contenu, elle est fixée, elle est unique. Là, déjà, tu te démarques, en fait. Et même si tu as 200 abonnés, si tu as un bon contenu, tu vas forcément évoluer. C'est logique, en fait. Mais les gens ont trop ce truc de « je vais faire la facilité ». En fait, c'est ça, c'est la facilité. Et moi, j'ai un peu un problème avec ça. C'est que je pense que, et même sûr, je pense que c'est pareil dans le podcast, c'est qu'à partir du moment où tu vas avoir des résultats, il faut aussi s'en donner la peine, il faut aussi tester des choses. Et comme tu l'as très bien dit, tu t'es remis en question à des moments sur ton biz, tu as voulu faire des interviews, etc. Parce que tu voulais aussi te renouveler, te challenger. Je pense qu'à partir du moment où tu as fait 150 quotes, elles ont marché, et peut-être temps de passer à autre chose. Peut-être que ton audience aussi, elle se lasse. Si tu as moins d'engagement, moins de vues, c'est peut-être aussi pour ça. C'est pas que l'algorithme, parce que tout le monde met la faute sur l'algorithme alors que rien à voir. C'est peut-être aussi que ton contenu, ça fait un moment que tu t'es pas renouvelé, il est peut-être temps de tester autre chose. Et ça, pour moi, c'est super important. Donc voilà, ça, c'est un point qui me semble essentiel.
Et tu vois, c'est intéressant parce que des fois, je vois des carousels où la personne, en gros, alors elle a sa légende dans la partie légende, mais elle a aussi le contenu dans la version carousel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que personnellement, je trouve que ça fait un peu doublon et quand je regarde un carrousel, c'est pour avoir les grandes lignes, si tu veux. Et pourtant, il y a des gens, alors j'adore Vanessa Lowe, je sais pas si tu connais.
Ça me dit quelque chose.
Oui. Et bien du coup, son compte Instagram, elle te met des carousels où t'as le texte, genre, et moi je me dis, je lis pas tout ça, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui lisent, tu vois, dans l'aspect visuel comme ça, des longs textes où
Encore une fois, contenter alors moi je suis d'accord avec toi, je trouve ça trop long, et un carousel pour moi c'est pas fait pour être, c'est pas un livre en fait, un carousel, c'est vraiment des infos essentielles, des infos clés, il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit impactant, et moi le conseil que je donnerais vraiment, et ça c'est un conseil clé, c'est que chaque carrousel doit être potentiellement repartageable. C'est-à-dire que si on le sort de son contexte, il faut qu'il soit impactant, en fait. Il faut qu'il apprenne quelque chose, qu'il divertisse, ce que tu veux. Mais il y a souvent des carrousels où, tu sors une des slides, tu comprends pas de quoi on parle. Et ça, c'est un grand point négatif parce qu'au final, on va pas vouloir repartager. Et pour moi, un contenu repartageable, c'est un contenu qui va inspirer dans chacune de ses parties. Et un carrousel, ça doit le faire. Et pour répondre à ta question, non, je suis contre ce truc de doublon parce que non. Pour moi, il doit y avoir les infos essentielles dans tes carrousels. Après, tu peux commenter ou aller en profondeur si tu veux en légende. Moi, je serais plutôt du principe où il y a les infos essentielles dans le slide. T'as juste à résumer en quelques phrases sous ta légende et basta. Les gens, si tu fais bien ton contenu, il y a toutes les informations qui sont dans le post et t'as pas besoin de doubler, de trop en rajouter non plus parce que sinon ça te prend 3 heures à faire ton carrousel. Faut que tu réfléchisses à tes slides, après faut que tu réfléchisses à ta légende. Enfin, déjà que c'est long la création de contenu, si en plus tu te rajoutes des trucs à faire des doublons, à mettre des textes et tout. Enfin, moi en tout cas, je suis comme toi, je suis contre les carrousels remplis de textes parce que c'est pas. Comment dire? Sur le long terme, c'est pas productif en fait. Et puis. Ouais. Surtout, je préfère qu'à la limite que tu me fasses une longue quote hyper impactante, qu'on va tous avoir envie d'avoir de repartager, qui va tous nous toucher en plein cœur, et ça sera juste un post, plutôt que de nous en faire 10 en carrousel.
Ouais.
Parce que des fois, il y en a qui font des citations longues, avec un message, même un poème ou ce que tu veux, mais c'est hyper beau, c'est hyper touchant, ça on va vouloir repartager. Par contre, s'il y a 10 pages, on va vite lâcher, et c'est dommage parce qu'en fait, toi, tu seras démené pour faire un contenu, par exemple, de 7 slides, on va en regarder que 2. C'est dommage. Donc, je suis complètement d'accord avec toi et non, pas de doublon, clairement pas.
Bon, j'espère que vous avez tous bien entendu. Pas trop d'informations sur vos carousels, juste des informations importantes et le fait que, tu vois, tu mentionnes l'importance du fait que ce soit partageable et qu'on puisse, avec une seule slide, tirer de son contexte, comprendre. Ça, c'est un truc que j'avais pas en tête.
Et du coup, parce que c'est important. Mais oui, complètement. Mais tu sais que ça, c'est un gros problème, c'est que les gens, en fait, c'est une problématique qui est à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que les gens pensent leur contenu pour eux, mais jamais pour les autres. C'est-à-dire qu'ils se disent, mon contenu, il me plaît, moi, il est beau, moi, je sais que c'est utile, moi. Mais les réseaux sociaux, c'est pas moi. Les réseaux sociaux, c'est partager avec les autres. Donc oui, ton contenu doit te plaire, oui, ça doit te correspondre, oui, tu dois aimer ce que tu fais, ce que tu partages, mais oublie pas que c'est quand même l'autre qui est au cœur. Et surtout quand t'es un business, en plus, c'est le client qui est au cœur, donc ça doit lui apporter quelque chose. Ou même si c'est un prospect, t'as envie quand même de l'attirer, qu'il ait confiance en toi, etc. Donc, si tu démarres, en plus, surtout pour les personnes qui démarrent, tu crées du contenu qui ne donne pas envie d'être partagé, ça va être compliqué. Et les gens, moi, vraiment, c'est le conseil à retenir, c'est, voilà, comme tu l'as très bien dit, c'est penser à du contenu qui va se repartager. Et la citation, c'est le contenu qui se repartage le plus. Voilà, c'est dit, la citation, je pense que tu l'as vérifié toi aussi, les citations dans les infographies, c'est ce qui se repartage le plus. Quand c'est simple, clair, épuré,
lisible, parce qu'il y a aussi des trucs, des mélanges de couleurs, ça pique un peu les yeux. Voilà, quand c'est clair, simple, épuré, lisible, professionnel, on repartage direct en fait. Parce que, et bon, faut que le message il soit aussi inspirant, on est d'accord, hein, mais c'est, ça fait 80% du taf. Et ça, c'est repartageable. Et ça, on a envie de le repartager. Et moi, mes meilleurs taux de partage, c'est sur mes citations. C'est sur mes citations parce qu'il y en a. En fait, en gros, les gens, ça leur fait un déclic, ça leur déclenche une émotion. Souvent, la citation, c'est ouais. Ça. Ça va déclencher une émotion, ça va toucher un point sensible chez quelqu'un et on va avoir envie de le repartager. Donc, pensez à créer du contenu qui donne envie d'être partagé, tout simplement. Et ça, c'est vraiment une erreur. L'erreur numéro un, je pense. Ouais, c'est ça. Dans ta création de contenu, de pas te dire, ne pas penser à est-ce qu'on va repartager ce contenu. Tu vois ouais. Et ça, c'est vraiment un point super important, ouais.
Je pense aussi ouais, que c'est l'info, en tout cas la plus importante de cet épisode et tu vois, de notre échange, c'est ça. Gardez en tête que notre contenu doit être partageable.
Ouais, vraiment c'est essentiel parce que plus tu seras repartagé, plus tu auras de la visibilité. Et c'est aussi grâce au partage que tu vas toucher des gens que tu n'arrivais pas forcément à toucher tout seul. Parce ouais. que c'est bien beau d'avoir une stratégie de hashtag, c'est super, je suis la première à dire oui, etc. Mais tu vas prendre plus de temps, alors que les partages en soi, c'est magique les partages. Surtout si tu te fais repartager par des comptes qui sont hyper qualifiés dans ta niche. Voilà, ou des personnes qui ont une audience qui était à l'opposé de la tienne, mais qui serait potentiellement intéressée par tes services, bah, ça c'est top. Et moi, franchement, j'ai eu des super résultats grâce à mes partages. C'est aussi pour ça que mon audience elle a évolué. C'est parce que j'ai tellement touché des points sensibles qui parlaient à mon audience, j'ai tellement appris à comprendre ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, j'ai tellement passé des heures à analyser, et aussi moi, à voir ce que j'aimais aussi produire, ce que j'aimais partager, que ce mélange des deux choses, en fait, ça a fait quoi ? Ça a fait que, du coup, j'ai créé des citations qui étaient inspirantes, qui étaient impactantes ou informationnelles, éducationnelles. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est dit, les gens ont envie de repartager parce qu'ils ont aussi envie d'aider leur communauté. Et c'est ce qui se passe maintenant avec certains tutos que je peux faire. Ah, ça m'a aidé moi, donc ça va aider les autres. Et c'est ce que je te disais, en fait. Quand tu partages un truc en story, c'est pas anodin. C'est que tu partages parce que ça t'a inspiré toi, mais parce que tu sais aussi que ça peut être utile pour ton audience. Bon, après, il y en a qui vont partager n'importe quoi. Bon, c'est leur truc. Ils vont partager 10 mèmes dans la journée, des vidéos, des trucs, des chats. Ok, bon, ça, c'est pas pour. C'est du contenu qui est pas hyper adapté. Mais si t'as vraiment envie d'offrir une expérience utilisateur géniale à tes abonnés, que chaque jour ils reviennent en story, que chaque jour ils reviennent sur ton compte, qu'ils disent ah, j'ai loupé ça, et qu'à chaque fois qu'ils arrivent, ils se disent ah ouais. Ça, c'est vraiment top, faut que je le partage. Même si, en fait, un bon contenu pour moi, voilà. Tu vois, ça, c'est la côte à retenir de ce podcast, c'est quoi ? Un bon contenu pour moi, c'est un contenu qui n'expire jamais. Et, je sais que tout le monde a ce terme evergreen à la bouche. Bon, moi, je suis pas super à l'aise avec ce truc-là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que une bonne citation, un truc, un message impactant, il sera efficace même 2 ans après, en fait. Moi, là, j'ai des gens qui me repartagent des citations d'il y a 6 mois et je trouve ça génial. Je me dis, ça veut dire ce contenu-là, il touche encore des gens 6 mois plus tard. Et pareil, tu vois, Maria Carré, chaque année, elle nous met sa chanson. Ça nous touche à chaque fois. Enfin, moi, perso, je suis fan à chaque fois.
Moi aussi. On l'entend.
Je vois ton sapin, ça me donne envie d'aller faire
ouais,
le ouais. Tu vois, Maria Carré, chaque année, on l'entend, chaque année, elle nous pompe l'air, ça fait des... on l'entend pendant 2 mois, mais chaque année, on va la mettre en story, chaque année, on va l'écouter, et chaque année, on va avoir l'esprit de Noël en écoutant Maria. Ouais. C'est, tu vois, c'est des trucs, c'est intemporel. Et à partir du moment où ton contenu, il est intemporel, bah, t'as tout gagné, en fait. T'as vraiment tout gagné. Et pour moi, un contenu intemporel va forcément avec un contenu repartageable. Parce qu'un contenu, si il est repartageable, c'est qu'il est intemporel. Souvent, très souvent. Il peut t'inspirer sur le moment, mais la plupart du temps, si on partage un contenu, c'est qu'il nous a suffisamment marqué pour l'enregistrer. Et si les posts qui sont dans les enregistrements, c'est qu'ils ont une valeur ajoutée pour toi. Et en général, ces posts à haute valeur ajoutée, ils sont intemporels. Donc ouais. Voilà, c'est un cycle un peu de contenu, mais c'est pour ça que tu le dis souvent de recycler son contenu. Bah, dans ce cas-là, c'est hyper important de recycler aussi son contenu qui fonctionne, qui génère l'engagement tout seul aussi. Ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à le repartager en story de temps en temps quand vous voyez qu'il y a des citations qui repop, qui refont un bon taux d'engagement parce que, bah, ça, en fait, en gros, tout le travail que vous avez fait en amont, il vous sert tous les jours, en fait. C'est ça que vous avez tendance à oublier. Vous vous dites, ah, j'ai fait un post, ça y est, il est dans les oubliettes, il est dans des limbes d'Instagram. Non! Non! Tout ce que vous créez, ça a un sens. Tout ce que vous créez, ça pose des bases pour bâtir après votre empire, si c'est votre objectif. Mais pour moi, chaque chose a du sens. Et se dire, il y a des filles qui font ça, je poste ça, on verra si c'est un test, et après je supprime. Bah non, 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 non. Ok, ce sera pas parfait, tu t'amélioreras à la... quand ce sera bon, quoi. Après, tu pourras archiver tes posts si vraiment c'était trop moche ce que tu faisais avant, c'était n'importe quoi. Ça, oui, tu vas m'archiver ça parce que c'est pas possible. Mais... Faut arrêter de penser que tout va être parfait du premier coup, c'est pas possible. Et puis, c'est aussi, je pense que, et je te le dis souvent dans tes podcasts, c'est super cool de voir, de tester, de challenger. Là, quand tu disais, par exemple, tu as testé 10 logiciels différents pour les newsletters. Ouais. Mais, et je t'écoutais parce que j'ai vécu la même chose là, avant de lancer mon site. J'en ai testé 3. Je me disais, pff, là, lequel, j'y comprends rien. Quel est le mieux, quel est le machin. Mais c'est en testant que tu sais. Et c'est pareil avec tout, avec l'alimentation, avec la musique. C'est, si tu n'écoutes pas le dernier album, tu ne pourras pas savoir ce que ça donne. Tu ne pourras pas savoir si tu aimes cette musique-là. Bah, sur Instagram, c'est pareil. Et les gens ont tendance à se dire non. Ils voient tellement du contenu parfait partout qu'ils se disent, moi aussi je dois être parfait, sauf qu'ils savent pas que toi et moi on a galéré pendant 4 ans à faire c'est un truc clair. Avant, que toi tu galérais avec ton blog et moi je galérais. Enfin, ils se rendent pas compte de tout ouais. ce qui s'est passé avant. Tu vois, tout comme moi, là tu me connais pas, tu me suis, tu te dis, waouh, elle a 7000 abonnés, c'est quand même ouf pour ce qu'elle fait, pour une entrepreneur et tout. Pour certains c'est beaucoup, pour certains c'est pas beaucoup. Moi pour moi c'est déjà un truc de fou de sachant de là où je pars et en si peu de temps. Et. Tu vas te dire, ouais, mais elle sort d'où? On sait pas, elle a pas de diplôme, elle a pas de machin, elle a pas de formation. Or que les personnes qui me suivent depuis 2016, ils vont dire, mais Chloé, elle est experte, elle est géniale, c'est super ce qu'elle fait. Tu vois, tu vas avoir deux parties. Et ce qu'il faut, c'est quoi? C'est fidéliser ceux qui sont là depuis le début, mais c'est aussi, gagner la confiance des nouveaux. Et si toi, tu t'assois sur ce truc de te dire, bon, bah, j'en ai déjà 200 qui me font confiance depuis le début, les nouveaux, je m'en fous un peu, donc ils ont qu'à apprécier, ils ont qu'à me faire confiance. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Franchement, il y en a beaucoup qui font ça, de se dire, mon audience, elle est acquise. Non. Demain, Instagram peut sauter. Demain, tout le monde peut désabonner de toi pour X ou Y raison parce qu'ils n'ont pas aimé ton contenu, parce que t'es dans un bad buzz, parce que y a un bug de logiciel, il y a un bug d'algorithme, ce que tu veux. Tout le monde peut se désabonner de toi. Arrêtez de croire que vos abonnés, c'est acquis parce que tu peux, que t'en aies 100 000 ou que t'en aies 10. Ils sont pas à toi. Ils t'appartiennent pas. Et ton contenu, c'est la seule chose qui t'appartient en soi. Donc fais en sorte que ce soit un vrai cadeau, que ce soit un vrai truc que tu offres à la plateforme et que, bah, en gros, tu puisses en récolter les fruits. Après, je suis désolée, je parle vraiment trop.
Non, c'est bien, c'est hyper intéressant et c'est percutant, je trouve. Donc, ne t'excuse pas, c'est très bien. Je voulais aussi que tu me partages quelques astuces pour générer de l'engagement et convertir ses abonnés en clients. Parce que c'est vrai que la question que je reçois souvent, et bon, j'y réponds aussi avec mon expérience et mes conseils, c'est je publie, mais j'ai pas de commentaires. Je pose des questions story, personne me répond. Comment est-ce que je fais pour finalement avoir un échange avec mon audience?
Alors, moi, je pense que ça vient du fait qu'ils ne connaissent pas assez leurs abonnés. Est-ce que ils ont pas assez échangé avec eux en amont, que ce soit en DM ou sous leur post? Il y a aussi une erreur qui est beaucoup faite, et franchement, elle m'exaspère, c'est le fait de ne pas répondre aux commentaires.
Ouais.
Comment tu peux te permettre de dire je n'ai pas d'engagement mais tu ne réponds pas aux commentaires, et moi j'en commande des posts, Dieu sait que j'en commande, et franchement très peu me répondent, très peu me répondent. Alors quand t'as une grande audience, je sais que c'est compliqué, il n'y a aucun souci, mais quand t'as une petite audience, quand t'es micro nano influenceur, je suis désolée, tu peux me répondre, surtout si je te dis un truc hyper pertinent, etc. Tu peux me répondre. C'est la première erreur, tu réponds pas à tes messages, tu réponds pas à tes DM, ou alors tu réponds 6 jours plus tard. Non, c'est non, je suis désolée, surtout quand tu démarres et que tu veux générer de l'engagement et bâtir une audience. Non. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont tendance à faire plein de sondages parce qu'on leur a dit que ça a généré de l'engagement. Les sondages, je suis complètement pour, mais ça doit être fait de manière intelligente. Moi, si tu regardes bien, les sondages, j'en fais assez peu. Pourtant, j'adore ça, j'adore avoir le feedback de mes abonnés. Mais si à chaque fois, tu vas faire des sondages pour leur dire « Vous voulez quoi comme poste? Vous voulez quoi? C'est quoi votre problématique ?» et tu le fais constamment, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se dire « Mais en fait, elle sait pas ce qu'elle fait. Ah, mais en fait, elle a besoin de nos idées pour créer son contenu. C'est nous qui devons lui donner inspiration constamment. » Des fois, ça te décrédibilise, donc il faut faire attention aussi à ça, parce que des fois, les gens, ils n'ont plus envie de répondre, parce que peut-être qu'ils ont répondu à tes 10 sondages d'avant et que tu n'as toujours pas répondu à la problématique. Et ça les gonfle, parce que tu n'as toujours pas mis le doigt sur leur problématique. Alors que si tu as bien pris en compte ce qu'ils te demandent, ce qu'ils te souhaitent, toi aussi, là où tu vas aller dans ton business, et souvent, le manque d'engagement, c'est ça. C'est que toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Enfin, franchement, dans 80% des cas, c'est ça. Ou alors, c'est le format qui ne va pas ou le contenu qui ne va pas. Mais souvent, c'est ça, c'est que toi-même, tu ne sais pas où tu vas. C'est-à-dire que tu publies. Tu te dis, oh, donnez-moi des likes, donnez-moi des abonnés, donnez-moi des likes, donnez-moi des commentaires, je veux des résultats. Ok, mais ce post, il était censé amener où? Il était censé apporter quoi? Et ça, en fait, tu vois, les gens, ils font les choses complètement dans le désordre, c'est-à-dire qu'ils veulent poster résultats immédiats. Par contre, où on veut arriver avec ça? Quel est l'objectif à tirer derrière? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ton contenu? Ça, ils sont incapables de te répondre. Et c'est ça qui est dommage. Donc, c'est pour ça, en fait, moi, je pense que l'engagement, tout se passe dans la stratégie de contenu. Et l'engagement, ça se travaille. On n'a pas tous eu 10 000 abonnés, 500 likes sur nos photos du jour au lendemain. Enfin, je suis désolée, on a tous galéré avec nos hashtags. Au début, je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, au tout début d'Instagram, on avait 11 likes. Dès qu'on avait 12 likes, ça passait à...
On était contents. C'était voilà. L'objectif.
Ouais, c'est ça. Il fallait qu'on ait 10 likes et on était contents. Enfin, je me rappelle, moi, j'attendais toujours qu'il y ait 12. Ah, je me dis, allez, c'est bon, j'ai 12 likes. Je suis quelqu'un. Voilà, mais
c'est ça.
Franchement, mais tu vois. Et avant, on se réjouissait pour un rien. Et maintenant, il y a ce truc, cette course de voilà, les vanity metrics, etc. Ou cette course des likes, c'est super dommage. C'est-à-dire que si t'as pas d'engagement tout de suite, ça veut pas dire qu'on n'aura pas dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 6 mois. Continue de poster. Si tu sais que ce que tu fais, c'est cohérent, que ça peut aider des gens, que t'as des bons retours, même si c'est une personne. Hein. Moi, je me rappelle au tout début, même enfin en 2016, etc. Je postais mes trucs lifestyle et tout. J'avais une personne qui me disait ton post, il m'a aidé, ton post, il est génial. Mais moi, j'étais refaite. Je me disais bon, bah ça sert bien à une personne. Est-ce que pour autant, je vais le supprimer? Non. Et c'est ce truc de vouloir dire oh, je vais attirer tant de personnes, je vais attirer tant de personnes. D'accord, mais t'en attires 2, t'arrives pas à les fidéliser. D'accord ? Donc, attire ces 2 personnes-là, fidélise-les et après convertis-les. Et là, je pourrais te dire ok, ça fonctionne. Et les gens, ils veulent toujours plus d'abonnés, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ok, ouais. Mais est-ce que t'en prends soin de ceux que t'as déjà ? Est-ce que tu les convertis ceux que t'as déjà ? Est-ce qu'ils ont déjà acheté chez toi ? Est-ce qu'ils sont inscrits à ta newsletter ? Est-ce qu'ils suivent tes posts sur tes autres plateformes, par exemple Pinterest, YouTube ou je sais pas ? Est-ce que, déjà, tu vois, ça c'est la question. Et à partir de ce moment-là, pose-toi des questions. Parce que si t'as 0 engagement, c'est peut-être qu'il y a un truc à faire. Et là, du coup, il faudra peut-être te faire coacher pour repasser à un autre niveau. Parce que peut-être que t'as des blocages qui, je pense, sont liés aussi au mindset.
Ouais.
Dans la plupart des cas. Mais je trouve, et je pense que toi, tu vois, c'est un très bon exemple, que ce soit toi ou moi. C'est-à-dire qu'on a enfin défini notre vision. Toi, c'était le podcast, tu t'y mets à fond. Peu importe ce que ça va donner, on sait pas. Moi, c'était je me lance enfin à mon compte, on verra bien si j'ai des clients, on sait pas. Et au final, on s'est fixé cet objectif-là et on savait où on allait, donc du coup, on a eu des résultats. Sauf que ces gens-là qui ne savent pas trop où ils vont, en général, c'est ça qui leur fait perdre du temps. Et donc, du coup, leur positionnement, il est faussé, on comprend pas qui ils sont, on comprend pas ce qu'ils font, ils changent. Ça aussi, c'est une erreur, je sais pas si tu l'as vu, mais ça se trouve qu'il me saoule aussi, les gens qui changent de feed tous les 2 jours, là. Qui change d'identité visuelle tous les 2 jours, tous les 4 matins, il y a un nouveau format, une nouvelle couleur, un nouveau truc. Moi, ça me saoule. Je me désabonne la plupart du temps parce que ça me saoule, en fait. Genre, je vois que t'es en galère. Soit tu viens me demander de l'aide et là, je pourrais t'accompagner, te coacher, y a pas de souci. Mais en fait, toi, tu nous perds parce que on est fatigué. On veut pouvoir suivre quelqu'un. Et en fait, tu vois, il y avait beaucoup. Je crois que tu l'avais dit dans un de tes podcasts, qu'on a besoin d'identifier les gens comme des avatars. Et c'est hyper vrai. On a besoin de pouvoir mettre des étiquettes sur chaque personne qu'on suit sur Instagram. Moi, c'est souvent le conseil que je donne. Je dis, on doit pouvoir te reconnaître en 3 mots-clés. Donc, par exemple, toi, ça sera podcast, entrepreneur, leadership, tu vois, je dis n'importe quoi. Et là, on pourra se dire, ok, Safia, elle fait ça. Safia, c'est la reine du podcast. Imbola, c'est la reine du storytelling. Kouti, c'est la reine du social media. Enfin, tu vois, on a besoin de mettre des étiquettes sur les gens. C'est comme ça qu'on les retient, en fait. Sinon, on retient pas. Si on fait tous un peu n'importe quoi, on se retrouve pas. Donc, voilà, moi, je pense que c'est des erreurs qui sont classiques. Et en termes d'engagement, en fait, pour moi, il n'y a vraiment pas de secret, il faut juste s'intéresser à son audience, en fait. Et c'est très bête, hein. Il y en a qui vont me dire, oui, mais toi, t'es un peu bisounours, Chloé, t'es trop gentille avec ton audience, t'es trop accessible. Ah bon? Je suis trop gentille et trop accessible, mais pourquoi, moi, j'ai des résultats et toi, t'en as pas. Donc peut-être qu'il faudrait peut-être t'y intéresser aux gens avec qui tu parles. Et franchement, je sais pas ce que, je connais pas ton avis là-dessus, j'aimerais bien l'avoir. C'est que j'ai l'impression que sur Instagram, c'est très tourné égocentrisme. C'est-à-dire que je veux qu'on me donne des likes, je veux qu'on me valide, je veux qu'on valide mon contenu, je veux qu'on me dise que c'est bien. D'accord, ok, mais qu'est-ce que t'apportes, en fait? Et il y a plein de gens comme ça qui disent « Je suis, l'algorithme ne m'aime pas, l'algorithme n'aime pas mon contenu, l'algorithme ne met pas en avant, allez liker mes posts !» Et ils repartagent des dizaines. Et ça, franchement, je crois que c'est le top 1 des trucs qui m'exaspèrent, là. Mais vraiment, mais ça, je peux bloquer quelqu'un rien que pour ça. C'est repartager les posts « Comment battre l'algorithme ?» Tous les gens qui mettent ça en story hacker l'algorithme, aller liker les posts, enregistrer, l'algorithme a changé. Ces gens-là qui repartagent ces posts-là, ils travaillent pas chez Instagram. Ils y connaissent rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est buzzer parce qu'ils parlent d'un sujet qui apparemment est le problème numéro 1 en 2020. Je pense qu'on a quand même d'autres problèmes en 2020 que l'algorithme d'Instagram. Ouais. Tu vois, je pense. Et t'as ces contenus qui pop de nulle part, là. Je vais vous aider à hacker l'algorithme. Je vais vous aider à, voilà, aller liker, aller partager. On souffre, nous, les petits créateurs. On n'arrive pas à tirer notre épingle du jeu. On a besoin d'être boosté. Mais non, je suis pas d'accord. Bien sûr que t'aimes le contenu de quelqu'un, repartage-le, donne-lui la force, recommande-le à tes clients, enfin, aide-le au maximum si tu apprécies ce qu'il fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, inciter les gens, les forcer, leur mettre la pression, leur dire que c'est la faute à l'algorithme, s'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, parce qu'eux, ils voulaient 5000 likes sur leur photo, et ils n'ont pas 5000 likes, et ça va pas, donc du coup, ils vont continuer à bouder, ils vont venir. Moi, j'en ai des filles en DM qui viennent me voir, qui me disent, mais c'est pas vrai ce que tu dis, Chloé, l'algorithme, il m'aime pas, l'algorithme, il me met pas en avant. Et moi, je suis en mode, ben non, en fait, non, tu te concentres pas sur la bonne chose. Là, toute l'énergie que tu perds à te concentrer, à essayer de comprendre l'algorithme, le hacker, être contre lui, ben lui, il te calcule pas, il s'en fout. Plus tu vas faire ça, plus Insta va te shadowban, j'ai envie de dire. Alors que si tu le comprends, si tu te concentres en fait à produire juste du contenu qui va servir à ton audience, tu verras la différence. Et je pense que t'es très bien placé pour confirmer ça. Et les gens, ils sont toujours tournés sur eux. Genre, je n'ai pas eu les métriques que je voulais, je n'ai pas eu les résultats que je voulais. Donc, c'est la faute à l'algorithme. Donc, c'est la faute à Instagram. Donc, c'est la faute potentiellement à tes abonnés qui ne sont pas allés voir. Sauf que tes abonnés, s'ils l'ont pas vu, c'est peut-être que l'algorithme n'a pas trouvé ton contenu assez pertinent. Peut-être qu'il y a déjà 10 personnes qui l'ont vu, ils n'ont pas liké. Du coup, bah, c'est peut-être que ton contenu, il a pas intéressé suffisamment. Donc, pourquoi il m'intéresserait moins? Il y a plein de choses comme ça, en fait. Et ce truc de vouloir forcer les gens à combattre l'algorithme, à aller liker et tout. Je te jure, je peux bloquer des gens pour ça. Hein. Et moi, il y a des fois, j'ai envie. Franchement, je suis très gentille, il n'y a aucun souci. Mais si tu viens me parler de l'algorithme, ça me tend. Ou ça me tend, et tu vois, je peux vite partir en mode vénère. Parce que c'est vraiment un truc. Pour moi, c'est la pire des excuses. Comment t'expliques qu'il y a plein de créateurs qui se démarquent constamment, que t'as des gens qui passent de 0 à 1 million d'abonnés en quelques mois, voire une année, parce qu'ils se défoncent. Franchement, le résultat, il est là. Et t'en as d'autres qui vont publier une fois toutes les 3 semaines et qui vont te dire « L'algorithme ne m'aime pas. Je repars pendant 2 mois. On verra bien si l'algorithme aura changé. » Bah non, parce que toi, pendant les 2 mois où tu dors, il y en a, pendant 2 mois, ils charbonnent et en fait, ils sont en train de prendre toute ta niche, tout ton public cible et ils les convertissent en plus, parce qu'ils sont là tous les jours. Et enfin bref, voilà, c'est pour ça que moi j'avais besoin de placer ce truc sur l'algorithme parce que c'est vraiment un mythe qu'il faut casser et ces gens-là qui vont se cacher derrière cette excuse de l'algorithme. Oui, l'algorithme a changé. Oui, maintenant il y a Insta Shopping. Oui, maintenant il y a les guides. Oui, maintenant il y a plein de choses. Oui, maintenant il y a les reels. Oui, maintenant ça fait beaucoup d'informations. Je suis complètement d'accord. Mais encore une fois, je te parle de quelque chose que je connais. J'analyse constamment Instagram et je teste des choses sur mon propre compte pour aussi vous partager des conseils qui sont véridiques. Moi, j'aime pas vendre des trucs que je connais pas. Il y a des choses que je maîtrise pas, j'en parle pas. Tant que c'est pas validé par ma propre personne, par mon propre compte, je n'en parle pas. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que Insta a mis en avant Insta Shopping, etc. Les gens, ils ont dit « Ouais, mais Insta, c'est devenu une plateforme e-commerce, ouais, mais c'est devenu pour le business et tout. » Et quand je vais les voir, la plupart du temps, donc il y a deux catégories de personnes, soit les entrepreneurs, les porteurs de projets, soit les influenceurs ou ceux qui veulent devenir influenceurs. En général, t'as ces deux grosses catégories-là sur Instagram. Et je leur dis « Ouais, mais t'aimerais pas en vivre d'Instagram ?» Bah si. Bah du coup Instagram c'est pour faire du business. Bah oui. Donc du coup c'est pour faire de l'argent. Bah oui. Donc du coup bah pourquoi tu râles alors? Parce que Instagram c'est maintenant ça nous permet à tous de faire de l'argent. Ah bah oui, c'est vrai. Et en fait ce truc de dire oui on veut un réseau qui soit pas business, bah dans ces cas-là n'espère pas pouvoir en vivre. Parce que pourquoi ça devient une plateforme business? Parce que les comportements et ont changé. Maintenant, un créateur de contenu, il a plus envie de s'embêter à créer du contenu gratuitement. Il a pas envie d'avoir faire des partenariats gratuits. C'est bien bon de recevoir un rouge à lèvres gratuit, mais ça t'achète pas ton paquet de pâtes à Carrefour. Et c'est ça en fait. Je trouve ça très hypocrite de dire ouais, Insta c'est devenu trop business et tout. Oui, mais ça intéresse qui maintenant que tu partages ton plat de pâtes ou ton pop-corn au cinéma? Avant, c'était ça. C'était je vais au cinéma, je fais une photo. J'ai mon chat, je fais une photo. Je mange une tomate, je fais une photo. Mais maintenant, ça intéresse qui? Ça intéresse plus personne, on est d'accord. Donc, faut aussi vivre un peu avec son temps et se dire bah, c'est bien joli que tu veux partager ta vie perso, mais pour ça, il y a des comptes privés. Et c'est pas grave, en fait. On s'en fout. Du coup, si c'est un gros privé que tu partages avec ta famille, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'algorithme? Qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit une plateforme business? Dans ces cas-là, change de plateforme. Et il y a aucun souci. Ouvre un groupe WhatsApp avec ta famille, un groupe Telegram, un groupe ce que tu veux. Mais ne viens pas dire qu'Instagram est en train de changer parce qu'Instagram, il évolue avec le temps. Et c'est comme ça qu'il est encore là. Sinon, il serait supprimé depuis l'arrivée des stories avec Snapchat et on n'aurait plus d'Instagram, on est d'accord. Donc, voilà. Moi, ce truc de dire, Insta, c'est trop business, c'est trop fake, c'est trop machin. Je suis pas d'accord du tout parce que tu vois on peut créer des liens, ça fait des années que je te suis par exemple et je suis ravie d'être là aujourd'hui et je me dis non c'est complètement faux de dire que c'est fake, que c'est faussé, que c'est que en gros entre guillemets c'est que pour l'argent parce que c'est pas vrai, les gens qui réussissent ils le font pas pour l'argent, les gens qui réussissent de base ils le font parce que c'est un projet qui leur tient à cœur, ils ont envie de partager, ils ont envie d'éduquer, ils ont envie de transmettre et surtout pourquoi ils ont des résultats parce que ça inspire les autres tout simplement, enfin. Si tu regardes bien, les gens qui réussissent, c'est ça. Hein. C'est pas, y a pas une recette miracle. Ils travaillent de manière constante et régulière. Ils produisent un truc de qualité. Ils connaissent leur mission de vie. Ils ont plus qu'à servir les gens, au final. Et tu vois, les Gary Vee, les Anthony Robbins, ils disent souvent ça. Ils disent, le succès de ma réussite, c'est ça. C'est qu'en fait, je me suis mis au service des gens. Et à partir du moment où tu seras toujours tourné sur toi, ton contenu, tes résultats, pour moi, tu es foutu. Et c'est pour ça qu'il y a des filles avec qui je veux pas travailler. Parce que c'est ça, c'est l'ego, en fait. Et sur Instagram, c'est un réseau très comme ça, c'est-à-dire que tu vas voir une fille en bikini, tu vas te dire, ah, voilà, elle est plus belle, elle est plus machin, elle est trop bonne, ça veut dire qu'elle, elle a réussi à se mettre en maillot de bain, ça veut dire qu'elle, elle a confiance en elle, et moi, j'ai pas confiance en moi, donc ça veut dire, et en fait, tu vois, non, mais c'est vrai,
ouais,
tu vois, t'es toujours dans la comparaison constante, et ça va être pareil pour le business. Ah, mais elle, elle a fait ce freebie-là, avec cette offre à ce prix-là, donc ça veut dire que si elle le vend cette offre, ce prix-là, ça veut dire que moi, du coup, je peux pas le vendre plus cher, parce que du coup, elle, si elle a mis à ce prix-là, ça veut dire qu'elle estime que ça vaut ce prix-là, mais moi, je sais que ça vaut plus, mais je peux pas, parce que du coup, elle a vendu. Enfin, tu vois, et en fait, c'est tout le temps ça, mais ça, c'est Instagram, c'est tous les jours, et même moi je le vis, hein. Mais moi j'ai 10 000 remises en question, je me dis, mais parce que je vois tous ces fausses coachs Instagram qui pop de nulle part et qui viennent te vendre des trucs et des conseils et des machins, et je suis en mode, mais ne donnez pas votre argent à ces gens-là. Et toi, bah, malheureusement, tu peux pas non plus, on n'est pas les modératrices d'Instagram, hein. Mais tu vois, il y a tous ces trucs-là où je me dis, ouvrez les yeux en fait, juste ouvrez les yeux et soyez dans le vrai. Arrêtez d'être dans ce truc de je vais me comparer, j'ai machin et tout. Fais tes trucs, si tu sais pourquoi tu fais les choses, peu importe ton domaine, hein, que ce soit lifestyle, pro, entrepreneur, ce que tu veux, bah en général t'as des résultats, c'est juste logique. Il n'y a pas à chercher compliqué quoi. Je parle vraiment beaucoup trop.
Non mais c'est important.
Je suis désolée.
Je trouve que c'est important de le dire. En tout cas, c'est hyper intéressant et je pense que ça va permettre à plein de gens de voir finalement Instagram d'une meilleure manière et plus de se concentrer sur leurs chiffres, le manque d'engagement, etc. Mais vraiment de se concentrer sur les bonnes choses, la création de contenu et le fait d'aider les autres, tu vois.
Donc, ouais, c'est bien. Je pense que c'est les points à retenir.
Complètement. Je voulais finir avec une question totalement hors sujet. Je voulais te demander quel était le dernier livre que tu avais lu et si tu nous recommandes. Peu importe.
Alors,
le sujet du livre.
C'était L'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins. Là, c'est vrai que je m'étais lancé le challenge de lire un livre par mois. J'ai un peu réfréné parce que en fait, ce livre-là, il m'a bousculé. Du coup, je le relis, j'en relis des passages. Ouais. Il est très long, il est très complet, mais je vous jure qu'il peut changer votre vie. Et quand je vous dis ça, c'est pas en mode gourou développement personnel, mais en fait, c'est un peu comme un coach de l'armée ou un coach sportif qui vous met des grosses mandales à chaque page, en fait. Et il vous dit, bouge-toi les fesses. En fait, à chaque page, ça veut dire ça. Et c'est pas du tout culpabilisant, mais c'est, ah bon? Donc si tu fais pas ça, c'est qu'au final, t'as pas fait ça. Et si t'as pas fait ça, c'est qu'au final, tu ressens ça. Donc pourquoi tu ressens ça? C'est parce que t'as pas fait ça. Et toi, t'es en mode, oh. Et chaque page, tu te poses et tu te dis, waouh, ok, bon, ma vie, c'est de la merde. Il faut vraiment que je change ça, en fait. Et vraiment, ce livre, il m'a mis, mais je crois que j'ai mis 2 mois à le terminer parce que je bloquais tous les soirs sur. Je lisais 3 pages et j'étais en mode. Je regardais ma mère et je disais, on était en vacances cet été, je disais, mais. En fait, ma vie, mais qu'est-ce qu'il y a pas? Et à chaque fois, j'étais là, je badais, tu vois, je partais au bord de la mer, je disais, non, mais ça va pas du tout, là. Anthony Robbins, il a dit que ma vie, ça allait pas et tout. Et ça m'a fait réfléchir à un truc de fou. Et je pense que ce livre, il peut aider beaucoup de personnes parce qu'en fait, il te donne. En gros, c'est quoi? Il te donne. Moi, je suis vachement pro de développement personnel, je pense que tu le sais. Je suis hyper branchée mindset. Je veux vraiment nettoyer, entre guillemets, l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Je suis un peu dans ce truc-là de se dire, c'est pas du tout holistique ou que ce soit. Moi, c'est vraiment développement perso. Et je me dis, quand t'as compris les problématiques que tu as, quand tu comprends les fausses croyances que tu as, tu peux les déconstruire et du coup, tu peux avancer dans ta vie. Et moi, je suis quelqu'un, j'en avais énormément. Je traînais des casseroles dans beaucoup de domaines de ma vie et je pense que c'est pour ça que 2020 aussi ça m'a permis de nettoyer, tu vois, voilà, enfin prendre confiance en moi parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou non, ça donne confiance en soi, même si on n'est pas au sommet, même si j'ai pas bâti un empire, ça m'a donné confiance en moi. Et je pense que c'est des petites étapes qu'on arrive à réussir, qu'on arrive à passer, qui nous font grandir et du coup qui nous donnent confiance et du coup qui nous donnent envie d'accomplir d'autres choses. Je pense que toi, quand on voit ton parcours, quand on voit que t'as été interviewé par Pinterest et tout, on se dit waouh. Enfin, et je suis sûre que quand t'as créé tes premières épingles, t'étais loin de te douter de ce que tu vois.
Clairement.
Et là, du coup, tu peux être fière de toi, tu peux être fière d'être citée dans Forbes, etc. C'est des trucs, c'est des fiertés, c'est des accomplissements personnels. Et du coup, dans ce livre-là, bah en fait, si tu veux, il te donne un peu les clés pour déconstruire tous ces trucs qui te bouffent de l'intérieur, tu vois. Il te dit, par exemple, t'es complexé par ton physique, tu manges trop, etc., machin, tu trouves que t'as du poids en trop. Et il t'explique pourquoi tu as associé le sport, par exemple, à la souffrance. Parce qu'il dit qu'en gros, tout est souffrance et plaisir. Et franchement, ça, cette idée-là, elle m'a bousculée parce qu'en gros, il dit que chaque chose qu'on fait en priorité, c'est parce que ça nous apporte du plaisir immédiat. Et chaque chose qu'on fuit, qu'on évite, qu'on esquive, c'est que ça nous apporte de la souffrance. Bref, autant te dire que ça m'a hacké le cerveau parce que c'est ça pendant au moins 800 pages à peu près. Je crois que le livre, il est énorme et je me suis mis des marque-pages genre toutes les deux pages. J'ai surligné, j'étais là en mode, mais c'est pas possible. Et en fait, à la fin, il te donne un challenge. Moi, je l'ai pas fait parce que c'est un truc de fou, mais... En gros, voilà, si vraiment vous voulez restructurer votre cerveau, vous voulez... Parce qu'en gros, c'est ça, c'est de la PNL, programmation neuro-linguistique, ou tu reprogrammes ton cerveau. Et c'est clairement ce qu'il dit dès le début. Hein. Et en plus, il te prend des exemples hyper concrets. Et le livre, il l'a écrit dans les années 90. Et chaque exemple est encore d'actualité. Ouais. C'est un truc de fou. Il te parle de Trump. Il te parle de Walt Disney. Il te parle de tous ces grands groupes. Il te dit qu'il a perdu des millions de dollars, qu'il s'est fait arnaquer par son comptable, qu'il était en banqueroute. Et maintenant, tu sais qu'il est multimillionnaire. Tu vois, 10 ans après, en fait, quand tu connais le parcours de l'homme et que tu lis le bouquin... T'es encore plus inspiré, tu dis mais putain, mais pourquoi je me trouve encore des excuses là? Il faut que je me bouge parce que il a pu le faire. Donc voilà, moi c'est vraiment un livre que je recommande. Je me suis un peu emballée parce qu'il me passionne, mais
Non mais ça va donner envie de le lire et je pense que ça va donner aussi envie aux gens d'aller creuser un peu plus à ce niveau-là quoi.
Donc voilà, l'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins, vraiment. Et si ça vous intéresse, vous avez un documentaire sur Netflix d'Anthony Robbins.
Ouais.
Je sais pas si tu l'as vu, mais
ouais, je l'ai vu.
Déjà tu le vois, tu te dis, ok, en 3 jours il peut changer ma vie, d'accord, super, en 3 jours il peut régler mon couple, mes problèmes d'argent et tout, t'es en mode, ok, le séminaire il coûte 8 000 dollars, ok, c'est pas grave, tu vois. Et tu vois qu'il change des vies. En fait, moi j'ai regardé le reportage avant de lire le livre, et c'est pour ça. Après 2 jours après, j'ai dit, je commande le livre, et je pense que je vais en commander plein d'autres de lui parce qu'il m'inspire beaucoup. Et je pense qu'il peut inspirer beaucoup de personnes parce qu'il a ce truc, cette rage. Qui transmet à travers son livre, en fait. C'est pour ça que quand t'as vu le documentaire Netflix, tu l'entends parler dans le livre, en fait. Et ça, c'est ça. Je me disais, mais il met des coups de pied.
Et en plus, il a une grosse voix, tu vois.
Il est imposant. Voilà, c'est ça. Et ouais, j'aime beaucoup. Je me dis, t'as l'impression d'avoir une petite voix, un coach qui te met des coups de pression dans l'oreille, comme ça, et t'es en mode, ok, je vais le faire. Si Tony l'a dit que je peux le faire, tu vois. Et t'as l'impression que, franchement, dans le livre, t'as l'impression qu'il est avec toi. Et c'est là où je trouve que c'est très bien joué. C'est qu'il a fait ça vraiment comme un coach, quoi. Comme dans ses coachings, mais avec toi dans son bouquin. Et je te dis, son bouquin, il l'a écrit dans les années 90. Il te parle de trucs, des cassettes VHS et tout. T'es en mode, mais nous, maintenant, on est... Tu vois
On est trop loin.
Ouais, et il dit qu'il se formait à la PNL et tout, avec des cassettes VHS, qu'il allait louer des vidéos d'événements personnels, etc. Le mec, il s'est formé comme ça. Maintenant, nous, on a quoi comme excuse? On a Internet, on a Google, on a YouTube, on a les podcasts, on a Instagram, on a TikTok. On a tellement de choses maintenant... Tu vois, il le dit souvent, Gary Vee, il dit, mais vous êtes bénis, en fait, votre génération, elle est bénie parce que vous pouvez monter un business en un clic, vous pouvez... Enfin, en vrai, tout est possible. Là, à l'heure actuelle, 2020-2021, tout est possible. Et c'est vrai que dans ce bouquin, moi, ça m'a grave fait réfléchir. Je me suis dit, le mec, il a des mains. Donc, il parle, il en est 90, il est déjà millionnaire. Hein, donc, c'est pour te dire. Donc, maintenant, non. Voilà. Il est millionnaire depuis bien longtemps, il avait à peine 30 ans, bon, voilà. Et donc, tu vois, t'es en mode, ah ouais, ok, d'accord, mais le mec, il part de zéro, il avait pas une thune, il avait rien, il avait une mère catastrophique qui lui a fait de la misère. Et toi, t'es là à trouver des excuses, à pas avoir confiance en toi, alors que t'as un toit sur la tête, t'as un business, t'as une connexion internet, t'as une communauté en ligne, etc. Enfin, voilà, moi, en tout cas, perso, si vous vraiment vous voulez remettre en question, vous bouger, déconstruire surtout des croyances, mais ça, c'est vraiment un truc de fou, déconstruire toutes ces croyances que vous pouvez avoir sur ce, comme je te dis, ce que tu associes au plaisir et à la souffrance. Bref, je vous spoil pas trop parce que là, sinon, je vais vous faire une biographie en live.
Non, mais je pense que c'est bien. Tu nous l'as bien vendu, en tout cas. Moi, j'ai envie d'aller me l'acheter, là. J'ai envie d'aller voir...
Tu vois, bah écoute, je sais que... Je peux juste te dire qu'il y a 2 abonnés à moi qui l'ont acheté. Et il y en a une, elle m'a dit, Chloé, à chaque page, je médite. Voilà, elle m'a dit, je me pose, je réfléchis sur ma vie, je médite. Voilà, je réfléchis à ma vie et je me dis waouh. Elle m'a dit voilà, chaque page c'est waouh. Et je suis en mode bah voilà. Et ça prend, en fait, il est vraiment intense ce livre. Tu vois, c'est un livre, tu peux pas le lire, c'est de la lecture active quoi. C'est. Ouais. Ton cerveau il va bouillonner, tu vas dire ok, faut que je fasse une pause. Ok, Tony il a dit ça, tu vas peut-être relire 10 fois la même page et il va dire bon, j'y retourne demain parce que là ça fait trop d'un coup. Il te donne des exercices à faire. Enfin, c'est vraiment, c'est comme, pour moi, c'est une formation en fait.
Ouais.
C'est pour ça que c'est très intense, faut avoir l'énergie à mettre dedans, mais. Une fois que tu l'as commencé, tu peux plus l'arrêter. Enfin, en tout cas, moi, c'était ça. Je me suis dit, oh là là, mais j'en peux plus, il me reste encore 500 pages. C'est hyper long, mais en fait, ça, c'est l'équivalent d'un coaching. Donc, franchement, pour un livre à 11 euros, je trouve que ça vaut la peine, quoi.
C'est clair. Bon, en tout cas, voilà. Je te remercie pour la recommandation du livre et puis pour toutes les sages paroles que tu as eues dans cet échange. J'ai appris beaucoup et je suis sûre que ce sera le cas de pas mal d'auditrices.
Bah, merci à toi. Merci de m'avoir invitée. J'étais ravie. J'espère que mes conseils, du coup, vous seront utiles.
De toute façon, je vais mettre tous les liens pour te retrouver, etc. dans la boîte, et puis on pourra aller à la source directement et tu vas profiter de toutes ces bonnes infos.
Ça marche.
Comme vous l'avez compris avec Chloé, ce qui compte sur Instagram, une fois que vous avez tout optimisé et qu'en arrivant sur votre compte, on sait ce que vous faites et comment vous allez nous aider, eh bien c'est de produire un contenu qui déjà s'adresse directement à notre audience, qui est partageable et intemporel. Et je pense que c'est la chose à retenir de cet épisode et qui va vous permettre ensuite de mettre en place une stratégie qui va vous aider à gagner en visibilité et à faire connaître votre activité sur ce réseau social. Et si vous décidez d'aller suivre Chloé sur Instagram pour en savoir plus et profiter de tout ce qu'elle partage de manière très régulière, bien vous pouvez la retrouver avec le pseudo Quincy que je vous mettrai dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes et ressources mentionnées sur le site mytrendylifestyle.fr. Et si vous souhaitez rejoindre une communauté d'entrepreneurs ambitieuses et déterminées, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Communauté Build Yourself.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.